Merci Tiffaine, bon week-end. Est un nomade à tous les étages. Gilles Tiberghien, en bon cartophile et philosophe de terrain, reprend la route côté Landart et expose à l'IMEC les récits du monde dans les pas de Ségalène, Supervielle, Léris, Michaud, Artaud et quelques autres. Tandis que le poète Michel Collot, en bonhomme paysage, énonce le parti pris des lieux, le temps d'un recueil en prose.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Gilles Tiberghien, Michel Collot, bonjour, bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
État nomade, disais-je, et écriture géographique, donc un récit de voyage, carnet de route et pensée paysage. Ça, c'est un terme que l'on vous doit, Michel Collot, et qui donne son titre à un essai que vous aviez signé aux éditions Actes Sud en 2011. Pensée paysage comme stratégie ou comme nouveau modèle, hein, au cœur de la plupart de vos poèmes et essais. À vérifier encore avec le parti pris des lieux, que vous signez aux éditions La Lettre Volée, où file récits, poèmes en prose, portraits d'œuvres, avec un petit parfum de manifeste, hein, pour dire et défendre la possibilité d'une encore voix lyrique au poème, et même une brève autobiogéographie en préambule. Hein. Qu'est-ce que ce néologisme, ou ce mot valise, donne déjà comme indication de ce qui vous anime, Michel Collot ?
La première chose, c'est que pour ce qui est du parti pris du lieu ou du paysage, il m'arrive de dire que, à ceux qui s'étonnent en effet de me voir toujours plongé dans le paysage, en fait que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et donc c'était l'occasion de faire une sorte de d'archéologie de mon goût du paysage qui ne m'a jamais quitté et qui a toujours enfin eu une relation avec l'écriture. Et autobiographie veut dire pour moi à quel point notre existence les choix qui la guident sont liés à une géographie intime, hein, qui est à la fois sociale, concrète, et en même temps toujours en rapport avec des attitudes, des choix d'existence.
Alors on reviendra bien sûr, hein, sur ce paysage dans lequel vous êtes tombé petit, hein, et encore faut-il s'entendre évidemment sur ce que paysage veut dire. Pensez mouvement de votre côté, Gilles Tiberghien, qui on doit au début des années 90 la première somme française, hein, qui définissait le périmètre et les enjeux du land art américain, hein, ce presque mouvement né à la fin des années 60, qui vient même, dit-on, de fêter ses 50 ans, si je compte bien, en prenant quelques raccourcis, mais à vous lire, on se le demande, est-ce que c'est un terme, au fond, auquel il faudrait renoncer ?
Non, je pense pas, sauf si on veut absolument lui substituer un mot français, mais après tout, il y a d'autres termes de ce genre qui sont entrés dans la langue française, et il me semble assez bien désigner ce qu'il désigne, c'est-à-dire assez vaguement et assez précisément en même temps. Les deux ont un avantage, et je trouve ça bien.
Qu'est-ce que ça veut dire, alors, justement, que cette ambiguïté, au fond, qu'est-ce que ça regroupe, hein, alors, en deux mots, hein, ou alors qu'est-ce qui empêcherait un regroupement sous la tutelle du land art ?
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lui donne une extension trop grande, ça devient n'importe quoi qui a rapport à la nature ou au territoire, de l'ordre de l'art. Donc ça va jusqu'au jeu de plage, qu'on appelle land art. Parfois, j'ai vu des petits volumes qui s'appellent comme ça pour les enfants. Évidemment, bon, ça, c'est relativement exclu de mon champ de compréhension du land art. En revanche, moi j'ai une exception assez restreinte du terme, puisque en fait je fais partir ce qui n'est pas un mouvement, comme vous l'avez dit, mais comme la rencontre de sensibilité à la fin des années 60, disons plus précisément en 68, autour d'une exposition qui s'appelait Earthworks. C'est donc la rencontre de ces sensibilités d'artistes assez divers qui va durer environ 5-6 ans, je rate ça, autour des années 73. Après, d'autres choses se passent qui ont rapport à des œuvres dans la nature, mais que je n'appelle plus exactement du land art, sauf ceux qui ont commencé, qui continuent sur cette voie.
Alors cette petite séquence, toute petite séquence-là, qu'est-ce qu'elle désignerait au fond ? Même mal, hein, mais qu'est-ce qu'elle désignerait ?
Alors elle désigne beaucoup de choses, elle désigne des gens qui sont dans un mode de contestation des lieux traditionnels dévolus à l'art, qui pensent, enfin qui veulent échapper aux musées, aux galeries, et qui voient dans la nature le prolongement en fait de ces musées et de ces galeries, plutôt d'ailleurs que leur contraire, ce qui fait qu'ils instaurent une sorte de dialectique assez subtile entre les lieux traditionnels d'exposition et les paysages où ils inscrivent, ou la nature où ils inscrivent leurs œuvres. Du coup, en fait, c'est un geste, ce sont des gestes qui ont aussi une résonance politique, même si elle n'est pas toujours énoncée comme telle, mais qui de facto imprime dans la société de cette époque, en plus, agitée par la contre-culture des années 60, par la contestation de la guerre du Vietnam, par tout ce qu'on sait autour des revendications de l'époque, qui donc incarne en fait une sorte de révolution, micro-révolution en fait, dans le domaine de l'art.
En 97, paraissait Gilles Tiberghien Land Art Travelling, qui est une sorte de carnet, journal de bord, un voyage effectué en 91 hein, et 94 dans l'Ouest américain, mention désert, à la recherche justement des œuvres ici du Land Art, hein, une sorte de hors-champ, comme ça, de chantier de notes et d'expériences qui allait nourrir votre essai d'historien de l'art sur le Land Art, hein, celui dont je parlais tout à l'heure. Un peu plus de 20 ans plus tard, vous reprenez ce texte, lui donnez un possible prolongement, et puis même une sorte d'effet de distance, y compris dans la pratique même de l'écriture. Au programme, pourrait-on dire, pour vous paraphraser, explorer, décrire, imaginer, et c'est le sous-titre, ça tombe bien, que vous donnez à Récits du Monde, de l'exposition dont vous êtes le commissaire à l'IMEC, hein, Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Vous vous êtes plongé dans une somme sans doute vertigineuse, hein, d'archives, de livres, de lettres, notes, photos, revues, guides, cartes postales, films, et en avez ramené une exposition et un livre, soit un récit, probablement le vôtre, hein, qui tenterait d'établir au fond les sources de nos représentations du monde, ce qui explique que nous puissions commencer par cette voie-ci.
Il est évident que le charme de la marche, c'est de musarder, de digresser, de s'arrêter, de piquer une sieste dans le trèfle, d'aller aux champignons en chemin, et puis de ne pas avoir l'obsession de la distance à couvrir, parce qu'à ce moment-là, autant prendre un vélo ou un cheval de course. Et puis je trouve aussi qu'une des vertus de l'état nomade, c'est que c'est un état d'alerte rouge. On tend l'oreille, on ouvre l'œil, parce qu'on sait très bien que les gens avec lesquels on boit un pot ce soir, ils auront disparu à l'horizon demain. Donc on leur prête une attention peut-être plus soutenue que dans un rythme de vie sédentaire où il y a des éléments extrêmement répétitifs qui font qu'on on se lasse de s'émerveiller. Quand on bouge, d'ailleurs, toutes les grandes traditions religieuses ont utilisé la marche aussi comme un moyen de progrès spirituel. C'est ce superbe texte du pèlerin russe qui est écrit par un anonyme du début du 19e qui a pratiquement traversé la Russie à pied pour des raisons mystiques. Rousseau, quand il marche, il y a des passages sur la marche dans les Confessions fantastiques où il dit « Je n'ai jamais été si bien moi-même » que quand je marchais seul dans une belle nature. Quand il dit une belle nature, ça veut en général dire la montagne, mais en fait, il est aussi par moments très, très lacustre, et il est tout à fait conscient que cet exercice qui est lent, qui a un rythme qui s'accorde à celui du cœur, est un exercice qui purge l'esprit avant de le remplir.
La voix de Nicolas Bouvier au micro de Gilles Lapouge sur France Culture. Il y a sans doute beaucoup à dire sur cette langue-là, hein, sur cette belle langue orale, hein, de Nicolas Bouvier. Pourquoi ce choix, Gilles Tiberghien, alors même que Bouvier n'est qu'à peine évoqué dans l'exposition Récits du Monde, contraintes d'archives et de matériaux obligent, j'imagine, mais je précise malgré tout qu'il ouvre votre livre en citant Confucius, qui aurait dit « Le voyage, fut-il de 1000 lits, commence sous vos chaussures ».
C'est d'ailleurs un peu pour, non pas réparer cette absence, mais pour le rendre plutôt présent ici, en parlant des voyages.
Il vous a manqué dans l'exposition ?
Oui, parce que ça faisait partie de ceux que j'avais fait la liste. Il y avait lui, il y avait d'autres personnes que j'ai cherchées. Par exemple, Ségalène que j'ai trouvé finalement, en dépit des apparences. Il semblait être perdu quelque part au fond de ses archives. Et en fait, on en a trouvé beaucoup. Mais Bouvier, oui, j'aurais beaucoup aimé. Je suis un lecteur assez assidu de Bouvier. J'aime beaucoup, même si certaines choses m'irritent chez lui. Mais il y a une vision du voyage que je trouve assez merveilleuse. Un engagement, il y a une expérience, il y a une façon d'en parler. Une malice aussi, un goût pour la musique qui me touche énormément. Et j'aurais aimé qu'il y ait Bouvier, mais il n'y a pas Bouvier. Voilà.
Qu'est-ce qui vous irrite chez lui ?
une certaine préciosité parfois, voilà, c'est ça qui peut mériter un peu, mais en même temps il y a tant de, je sais pas, de charme et de tendresse que ça passe bien.
Alors ce voyage qui vous intéresse dans l'exposition, et j'imagine c'est pour ça aussi que je disais que c'était votre récit, mais on y reviendra également à cette idée-là, c'est évidemment le voyage qui serait celui de la construction de soi, hein, dans notre rapport au monde, qui au fond est un voyage assez récent et qui vous permet, vous, donc, d'établir les bornes de cette exposition, hein, puisque, alors j'imagine que là aussi c'est lié aux contraintes des matériaux que vous avez trouvés, mais qui court essentiellement du 19e siècle, disons à la première moitié du 20e siècle à peu près. Qu'est-ce qui va se jouer dans cette séquence-là justement ?
La contrainte, elle est née de ce qui en amont existait le plus loin dans le temps, c'est-à-dire le début du 19e en gros, et c'est lié aux archives Hachette. Le fonds Hachette se trouve là-bas et c'est un fonds extrêmement intéressant, très très riche. Et on y trouve par exemple les premières grandes revues de voyage comme l'Illustration ou le Tour du Monde, qui sont ces grandes revues qui vont donner aux écrivains, aux artistes, l'envie de partir, de voyager en Orient et qui vont alimenter tout un imaginaire du voyage qui débouchera sur l'envie des touristes de partir aussi, puisque c'est la naissance du tourisme à ce moment-là qui se produit.
Qu'est-ce qu'elles fixent justement ces deux ? Alors elles sont différentes, mais néanmoins elles transmettent quand même un peu une même idée ou une même représentation du voyage. Qu'est-ce qu'elles vont fixer, ces deux revues qui sont assez importantes, hein, dans l'exposition ?
Alors elles laissent place au récit des voyageurs qui partent essentiellement en fait dans les lieux des colonies, hein, des colonies anglaises et des colonies françaises, qui sont les deux grands empires coloniaux que sont la France et l'Angleterre. Et elle fixe une image assez stéréotypée pour partie de ces pays. Mais pas seulement. Il y a une grande diversité, en fait, d'approches. Alors on va du pire au meilleur, hein, si je peux dire. On a là-dedans matière à réfléchir à ce qu'on va appeler l'exotisme, hein, qui va se développer beaucoup à la fin du 19e, au début du 20e, avec des gens comme, qui vont s'y complaire de toute façon, même si c'est un peu comme Loti par exemple, même si on est un peu dur avec Loti, même si quelqu'un que j'aime beaucoup, Ségalène, qui est un peu mon cheval de bataille, est très dur, même avec Loti. Mais n'empêche, c'est quand même quelque chose qui se développe beaucoup à cette époque.
Ces éditions de voyage, Gilles Tiberghien, dont vous parliez, qui vont évidemment avoir leur grande importance, les éditions Hachette et les illustrations. Hein, vous citez par exemple Abby Warburg, qui aurait été saisi, lui, par le désir d'aventure après avoir vu une mauvaise illustration, hein, je cite, une très mauvaise illustration en couleur de grand format représentant un Indien debout devant une grande faille de rocher dans laquelle était construit un village. Alors, pardonnez-moi de m'obstiner à revenir à vous et à vos propres récits de voyage, mais qu'est-ce qui aurait construit votre imaginaire de voyage à vous ? Quelles auront été ces sources, hein ?
Bon, peut-être le fait déjà que je sois né aux États-Unis, que j'y ai vécu enfant, en pleine campagne, dans un lieu que j'ai beaucoup mythifié, que j'appelle le vert paradis des amours enfantines, pour reprendre Baudelaire, en fait est resté toujours comme une profonde nostalgie de ce pays très imaginé, hein, et très imaginaire pour moi, même si là j'en reviens, j'y retrouve certaines choses que j'ai aimées, je trouve aussi beaucoup de choses que j'aime moins, mais je pense que c'est assez lié au fait que je me suis senti un peu déplacé, et que j'ai toujours cherché à retrouver quelque chose d'autre. Alors ça, c'est une quête personnelle, en voyageant énormément et du coup aussi en écrivant beaucoup, puisque j'ai une pratique de diariste, des journaux de voyage en quantité depuis 40 ans.
Peut-être une dernière question sur l'exposition, où on va retrouver notamment, hein, la fameuse collection Hetzel chez Hachette, hein, la collection Rouge et Or qui publie Verne. On va trouver des guides, des atlas, des cartes routières, les deux revues dont vous parliez. L'intervention, alors plus dans la dernière partie, parce que tout ça est aussi affaire d'imaginaire, Gilles Tiberghien évidemment, c'est quand même ça l'idée, de poètes et d'écrivains qui vont notamment, alors qui arrivent un peu tardivement, hein, qui vont notamment prendre acte aussi, j'imagine, du changement qui va être opéré par la naissance de l'anthropologie au début du XXe siècle. Hein. En quoi est-ce que cette affaire d'anthropologie, qui est centrale, hein, dans l'exposition, va, en redéfinissant le statut de l'observateur, d'une certaine façon, aussi apporter quelque chose à ces poètes ?
beaucoup de ces anthropologues ont une tentation littéraire. Ils sont, on sait pour Lévi-Strauss, hein, par exemple, pour Triste Tropique, que c'est d'abord une sorte de roman qu'il veut écrire, mais il y en a bien d'autres qui écrivent des livres qui sont d'un côté pour un certain grand public, en quelque sorte, ça a été bien étudié d'ailleurs dans un livre qui s'appelle La fin des voyages, et puis d'un autre côté, c'est le livre scientifique destiné à ses pairs, qui va faire autorité, en quelque sorte, mais qui très souvent est accompagné de cette première tentative, qui manifeste bien que ces scientifiques sont nourris de lectures, de fiction, de romans, voire de poésie. Dans l'exposition, il y a aussi, par exemple, alors il y a l'Iris, évidemment, qui est exactement la charnière de ces deux tendances. L'Iris, qui est un ami d'Alfred Metro, par exemple, dont il vante les qualités poétiques. Il dit qu'Alfred Metro, c'est non seulement un grand anthropologue, mais c'est aussi un poète, dit-il. Et pour revenir au poète, on trouve, par exemple, ça fera plaisir à Michel. On trouve à la fois Gangotena, qui est ce poète peu connu, qui était équatorien et qui a entraîné Michaud dans ce voyage d'où est sorti Équador. Le livre est d'ailleurs dédié à Gangotena. Il l'appelle Gango. Et puis il y a Supervielle, qui est un peu leur parrain, si on peut dire, qui est l'ami des deux et qui va lancer un hymne, pas tout à fait un hymne, à Gangotena quand il est parti et qui lui fait un appel, toi Gangotena, sortez au plateau, etc.
Alors voyager, c'est déjà, j'imagine, être dans un récit dont on serait finalement l'auteur. C'est aussi, au fond, ce que vous nous dites un petit peu dans Travelling Land Art, hein, dont une nouvelle édition augmentée, prolongée, paraît aujourd'hui aux éditions Phage. Sur la question de l'écriture, votre activité de diariste, hein, vous en parliez à l'instant, Gilles Tiberghien, est-ce que le voyage s'écrit de la même manière en 91 et en 2017, hein? Est-ce que l'écriture du voyage a bougé ses lignes pour vous en 20 ans?
Pas complètement, non. Les conditions du voyage, oui, ont beaucoup changé. On voyage plus du tout de la même façon, pour toutes sortes de raisons. Une d'entre elles auxquelles on pense jamais assez, c'est... elle est démographique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un monde fou sur la route. Quand j'étais enfant, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards... 500 millions presque, et puis quand je mourrai, si Dieu me prête vie jusque-là, ça sera 9 milliards, ça veut dire que la population aura triplé, ce qui a jamais existé dans la vie d'un homme, et donc je le ressens très fortement quand je voyage. Je vois bien que, bon, aussi les conditions de sécurité, enfin beaucoup de choses qui retardent, et en même temps qui sont des niches particulières, temporelles. Quand on attend, on peut écrire aussi, on peut faire autre chose, on aménage le temps différemment. Et de ce point de vue-là, écrire pour moi, c'est toujours quelque chose comme une tension particulière. Donc ça change pas vraiment. Et d'ailleurs, je n'écris jamais si bien en voyage que quand je suis épuisé, que je n'ai plus envie d'écrire, que je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et je me force à faire ce journal. Et quand je le relis, je sens que quelque chose s'est passé, quoi. Il y a une espèce de tension interne qui permet de faire émerger, je ne sais pas, une acuité particulière.
Alors, il y a un personnage tout à fait central, hein, dans ce Land Art Travelling. Alors, bien sûr, dans sa première partie, dans sa première version. Mais il est encore là dans la deuxième version, qui est Michael Heiser. Peut-être en deux mots, est-ce que vous pourriez nous dire, Gilles Tiberghien, qui est véritablement Heiser, hein, qui a cette place un petit peu à part dans le Land Art, qui concentre aussi un petit peu ce qu'on a pu reprocher au Land Art, hein, je sais que ça vous agace aussi, mais ce gigantisme, cette espèce de wagnerisation, d'une certaine façon, de l'art, ce gigantisme, ce changement d'échelle, cette façon de travailler avec des échelles immense, d'utiliser des bulldozers, des explosifs, avec voilà, une espèce de survirilité comme ça, qu'on a pu leur reprocher aussi, et qui peut-être pourrait s'incarner chez quelqu'un comme Heiser. Mais on se trompe, j'imagine.
Alors, on se trompe, et oui et non, c'est-à-dire que Heiser est un personnage très complexe, et quand je l'ai rencontré, j'étais assez fasciné par lui, en effet. C'est un personnage qui a d'abord... comme homme, un charme incroyable. C'est une sorte de... La première fois que je l'ai vu sur son pick-up dans la poussière d'un canyon, il avait l'allure d'une sorte de personnage de western magnifique, pas très grand, des yeux bleus métalliques, un regard d'une profondeur insensée qui pouvait faire peur en même temps que charmer. Il était très très fascinant comme personnage par ce qu'il racontait, par sa radicalité. Et quand je suis retourné là-bas plusieurs années après pour un film, tout le monde, toute l'équipe de cinéma qui était avec moi était exactement sous le charme comme moi. Alors, au-delà de sa personne, disons, ce qui me fascinait aussi, c'était son œuvre. C'est-à-dire qu'il était un des premiers à avoir fait cette œuvre radicale, enfin, à avoir créé cette œuvre de l'art radical qui est Double Negative.
Qu'il faut peut-être décrire. Enfin,
alors, le Double Negative, c'est une sorte d'immense tranchée faite sur un plateau, une mesa, qui présente une sorte de creux en son centre, et de part et d'autre de ce creux, il y a deux énormes crevasses qui semblent être comme, disons, ce qui reste d'une gigantesque règle en métal qui aurait été enfoncé dans la terre et qui permet ainsi de dégager 220 000 tonnes de roches et de terre, si bien qu'en fait quand on rentre à l'intérieur de cette gigantesque faille qui fait environ 15 mètres de profondeur, 9 mètres de large et 470 mètres de long d'un bout à l'autre, on est à l'intérieur d'un paysage enfermé en lui et en même temps de façon géomorphologique, en quelque sorte. On ne voit plus l'horizon, mais on a une approche tellurique de ce paysage. Et on peut mettre ses mains sur les roches, on est dans l'ombre et parfois dans la lumière, on est pris dans une expérience extrêmement intime avec la Terre et fascinante en même temps, parce que ce que l'on sait de cette énorme faille, on ne le sait que... par des photographies. On peut pas s'en rendre compte quand on est à l'intérieur. Donc quand on fait l'expérience de l'œuvre, on a l'image de Double Negative qu'on a vu d'avion, et quand on voit ensuite cette image d'avion, on se rappelle de l'expérience qu'on a faite à l'intérieur, ce que j'appelais un élément esthétique d'incertitude, quoi. C'est-à-dire qu'on est, on est entre les deux toujours. Et cette expérience-là, elle est fascinante, quoi. Et l'œuvre a, par sa simplicité, est la plus belle œuvre qu'Eiser ait faite. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'est ce qu'il a fait de mieux, en fait. Même si après, il m'a dit, mais on peut pas toujours faire la même chose, oui, bien sûr. Mais je pense que cette simplicité-là, cette évidence, est majuscule, quoi. Et il a une façon, je pense, aussi un peu, malheureusement, avec le temps, un mégalomaniaque de considérer l'histoire du Land Art à la tête de laquelle il se place. Et le temps passant, ça s'arrange pas. C'est-à-dire que maintenant, tous les autres sont des copieurs ou sont des gens qui...
Quelques-uns sont morts, ça tombe bien.
Ben, beaucoup sont morts, oui. Mmh. Et beaucoup sont morts. Donc, c'est un des derniers qui reste. Robert Morris est mort l'année dernière. Bon, en fait, il reste lui.
Oppenheim est mort. Nancy Holt est mort.
Nancy Holt aussi. Enfin, donc, Smithson est sur le premier. Donc, il reste plus grand monde de ces acteurs-là. Alors après, encore une fois, ils ont tous une personnalité particulière. Ils ont tous des œuvres différentes. Et l'appellation Land Art est complexe parce que elle est une forme de regroupement qui, comme toutes ces appellations et tous ces regroupements, est sujet à caution. Mais disons que par commodité, je préfère garder ce terme. Et lui m'apparaît comme le plus radical d'entre eux.
En 91, Gilles Perguin, vous partez à la recherche de la fameuse Spiral Jetty de Smithson, hein, qui est donc cette sculpture de pierre sur le Grand Lac Salé. Alors pour l'atteindre, enfin à l'époque, en tout cas, c'est un véritable jeu de piste. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup mieux fléché, tout ça est beaucoup mieux organisé par les touristes du Land Art. Mais quand vous y allez en 91, à l'époque, il y a à l'arrivée, quand vous y allez, cette spirale qui est donc posée sur un lac est recouverte par l'eau et donc vous ne pouvez pas la voir. Et donc vous écrivez cette déception qui au fond fait partie de l'expérience du Land Art aussi. Et il y a comme ça dans votre texte comme une sorte de mélancolie qui au fond ferait partie de l'expérience même du Land Art.
Je pense qu'il y a une forme de mélancolie parce qu'on a en même temps l'expérience de paysages extraordinairement vastes, d'un monde qui rend toute intervention ridicule en fait à sa surface, et qui fait que ces œuvres sont gigantesques souvent et elles sont très peu de choses en réalité et qu'elles vont disparaître très vite. C'est-à-dire qu'il y a une évidence géologique, disons, qui relativise considérablement tout ce qu'on voit et qui en fait à la fois la grandeur Et puis le côté comment dire mortel, très très visible, très sensible. C'est bizarre parce que je raconte ça à la fin du livre, mais quand je suis retourné avec Pascale Bohénic pour un film qu'elle faisait sur les Américains, sur l'art américain et Monet, on est allé voir La Spirale, et donc que je n'avais jamais vu, comme vous venez de le dire, et on y est arrivé, et sur le bord de la route, avec des gens qui d'ailleurs ne connaissaient rien à ça, enfin le chauffeur en particulier de la voiture, il savait pas du tout ce que c'était, et tout d'un coup il me dit, mais dis donc, tu vois ça, ce truc, on dirait pas une spirale. Alors je regarde tout de suite par la fenêtre, totalement excité, et je vois un truc minuscule, je me dis, c'est un dessin d'enfant, ça, c'est un truc de sable qu'ils ont dû imiter, la spirale. On s'approche, et en fait c'était la spirale, et j'étais je me dis, mais comment c'est possible, ce truc tout petit, la spirale. Alors je suis descendu à toute vitesse, et là tout d'un coup elle a repris sa place, quoi. Elle est remontée, elle a repris sa dimension, elle est devenue la vraie spirale que je rêvais, mais dont j'avais rêvé, que j'avais vu en image. Mais le point de vue de la route où on était, et surtout avec cette immensité devant nous, ce paysage incroyable, faisait qu'elle était grotesque, quoi, en fait, et que je pouvais pas me résoudre à penser que c'était ça que j'étais allé voir. Une fois sur place, bien sûr, je l'ai revue, mais quand Smithson dit que il est dans un paysage dont il a l'impression qu'il est en train de tourner sur lui-même, hein, cette sorte de rotation immobile, c'est pas de la littérature, c'est vrai, je l'ai senti là, j'ai vu que on voit la courbure de la Terre, et c'est immense, quoi. Et du coup, là, on comprend très bien ce qui a dû se passer en lui quand il a observé l'horizon, et horizon que Michel connaît bien, et sur lequel il a beaucoup écrit d'ailleurs.
Michel Collot, vous l'avez vu?
Non, je ne l'ai pas vu, mais je pense à ce texte de Smithson où il raconte la découverte du paysage. J'ai été extrêmement frappé par ce texte, parce qu'on a l'impression qu'en effet, le projet de l'œuvre est très lié à cette expérience tout à fait saisissante de l'horizon, en effet, c'est-à-dire de l'ouverture de l'espace, en même temps le sentiment de finalement géologique, en effet, de la Terre dans sa rotondité aussi. C'est un très très beau texte, et qui me fait dire que c'est ça qui est très important, je crois, et qui explique l'intérêt que peut avoir un journal de voyage. C'est que finalement, ça, il n'y a que l'écriture qui peut vraiment pleinement l'exprimer. Mmh. Hein, parce que ça n'est plus simplement l'organisation visible et visuelle du paysage, c'est une expérience, et cette expérience est faite de toutes sortes de choses que seule l'écriture peut prendre en charge.
Oui, je suis absolument d'accord. Oui, pardon. C'est d'autant plus vrai que je pense que les photographies n'en rendent pas du tout compte. Cette expérience, elle demande à être écrite plutôt qu'à être photographiée, parce que la photographie, c'est juste une sorte de trace, je sais pas, qui dit, bon, enfin, on sait tout ce que la photographie peut être, hein, je veux pas la dénigrer, mais pour ça, en tout cas, l'écriture est irremplaçable. Et j'ai d'ailleurs dans mon livre, dans Landart, par exemple, indiqué par des cartes et maintenant des codes GPS comment se rendre sur place. Parce que mon idée, c'est ça, c'est que les gens aillent voir, qu'ils en fassent eux-mêmes expérience, et que je ne me substitue pas à eux, que je leur donne simplement envie d'y aller.
Si c'est une expérience qui demande à être écrite, Gilles Tiberghien, on se demande même à la lecture de Landart Travelling, c'est-à-dire de la nouvelle édition, si vous ne l'avez pas prolonger ou rééditer simplement pour pouvoir écrire ce moment-là.
Oui, c'est joli comme idée, mais c'est peut-être ça. Mais
mais c'est pas vrai.
Non, c'est possible, on ne sait pas, mais c'est vrai probablement pour partie.
Alors, il y a quelque chose que vous effleurez dans la première édition, enfin dans le premier texte qu'on retrouve ici, qui est le rapport entre ces artistes et la poésie. Alors, vous ouvrez d'ailleurs en citant Emmanuel Hocquart, vous terminez plus ou moins sur une évocation de Reznikov. Et ces artistes eux-mêmes, pour beaucoup, avant de se lancer dans les expériences qu'on connaît, pour beaucoup ont aussi eu une activité de poète, ou en tout cas ont écrit, ont eu besoin aussi d'écrire en même temps ou avant de commencer ces travaux-là. Et je me demandais, alors vous dites que le Landart pourrait prendre un sens nouveau.
Oui, il suffit d'organiser le scénario autrement, c'est-à-dire que en fait, et Smithson, et Nancy Holt, mais tout un ensemble d'artistes autour d'eux qui étaient certains poètes, d'autres grands lecteurs de poésie, des cinéastes expérimentaux, Mécasse, Frampton, qui était proche de William Carlos Williams, qui était le médecin en fait de Smithson aussi, ce qui est amusant parce que il y a un intérêt pour la poésie de William Carlos Williams en même temps que pour la personne, et qui fait que quand on regarde bien le travail, l'écriture de Smithson, on voit bien qu'il est très imprégné en fait de Patterson. On peut comprendre autrement ses propositions artistiques et plastiques.
Alors qu'est-ce que ça veut dire autrement ?
Ben, ça veut dire qu'en fait, on peut les prendre du côté de ce qu'ils ont en fait d'enterré, si je peux dire, si on parle de Earth Words, les mots de terre, en les dégageant de cette gangue et en trouvant quelque chose qui est de l'ordre du poétique à l'intérieur de ces textes, de ces œuvres, comme si en fait il y avait du texte poétique qui circulait. On le voit bien, par exemple, dans l'œuvre de Smithson qui s'appelle A Heap of Language, un tas de mots. Un tas de mots, ce sont des phrases qui sont mises les unes dessus des autres, qui ont un sens, mais qui en même temps font un tas, un véritable tas. Et il y a cette tentation de trouver des choses qui visuellement correspondent à... visuellement correspondent à un sens comme les calligrammes d'Apollinaire simplement, mais qui font écho en quelque sorte à ces pratiques artistiques qu'ils ont dans les déserts ou qu'ils font ailleurs. On pourrait regarder ça point par point. Chez Nancy Holt, c'est très clair aussi. Par exemple, elle est quelqu'un qui regarde de façon spéculaire, elle regarde à travers des viseurs, et ses premiers poèmes sont des poèmes en viseur. Elle écrit très impressionnée, influencée, si on peut dire, par la poésie concrète, des poèmes qui ensuite vont donner lieu à des photographies qui seront des photographies de tombes, qui ont l'air de se détacher sur le reste du terrain, du territoire, et qui sont eux-mêmes des pages presque, comme des pages isolées dans l'immensité du désert. Et y a comme ça un écho permanent entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Michel Collot, avant que d'en venir donc au parti pris des lieux recueil de poésie, de poèmes, hein, paru à la lettre volée, je rappelle que vous êtes également auteur de dessins, hein, donc je pense à Poésie et paysages chez Corti, à La pensée paysage chez Actes Sud en 2011, hein, dont on parlait tout à l'heure, aux nombreuses anthologies de poésie, dont une à venir d'ailleurs, et puis cette persistance donc, du paysage comme modèle ou comme stratégie de pensée, voire d'écriture. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous étiez tombé dedans quand vous étiez petit dans le paysage. Ça demande quelques précisions, j'imagine. Encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'est le paysage, à moins que ce soit de là que vous vienne ce que vous définissez comme étant le paysage.
Oui, parce que quand je dis je suis tombé dedans, en fait, je fais référence à cette expérience que décrivait tout à l'heure Gilles, d'immersion dans le paysage. On a dans notre culture un peu trop du paysage une définition héritée de la grande tradition picturale du paysage, c'est-à-dire un spectacle contemplé à distance, organisé par la perspective. Or, c'est toute l'ambiguïté même du mot paysage que de renvoyer à ce type de représentation picturale, mais aussi à autre chose, c'est-à-dire à l'expérience sensible que nous pouvons avoir du paysage. Et il me semble que cette expérience ne se réduit pas à cette contemplation à distance, qu'elle est aussi celle d'une implication dans le paysage, et qui commence par le plus physique, par tous les sens et pas seulement par la vue. Et il me semble que l'art contemporain à explorer beaucoup plus, de façon beaucoup plus intéressante, cette troisième, ce que j'appelle la troisième dimension du paysage, celle du où on n'est plus en face du paysage, mais où on est non plus devant, mais dedans. Et je crois que le travail de beaucoup de land artistes va dans ce sens. Et de fait, lorsqu'on entre, comme je l'ai fait moi, je suis entré en quelque sorte dans le paysage aussi par la littérature. Et le paysage en littérature, c'est parfois un tableau. Mais pour le meilleur, ça n'est jamais seulement ça. Et c'est justement la littérature, et notamment la poésie, qui permet de comprendre que le paysage peut être autre chose qu'un spectacle, hein, mais véritablement un milieu dans lequel celui qui est là se trouve impliqué.
Alors, peut-être juste pour terminer, alors évidemment, on va continuer à parler de paysages, mais d'une autre façon, quoique, on va parler de lieux, ce qui n'est encore pas tout à fait la même chose. Il va falloir préciser tout ça, mais simplement sur ce terme de pensée paysage hein, que vous avez développé, qu'est-ce qu'il s'agissait au fond de nommer avec ce presque mot valise, hein, puisque c'était il y avait un trait d'union entre les deux.
C'est l'idée que cette expérience du paysage est aussi porteuse de sens et que elle renvoie à un mode de pensée. Alors ici, je m'inspirais beaucoup dans ce livre de Merleau-Ponty d'une ce qu'il appelle une idéalité d'horizon, quelque chose qui est un sens en quelque sorte immanent à l'expérience sensible et qui va appeler pour s'exprimer justement. Le travail de l'artiste ou de l'écrivain qui lui-même mobilise les ressources sensibles, matérielles du langage ou de son mode d'expression. C'était cela, en fait.
Alors, l'artiste, vous y revenez hein, en fin d'ouvrage hein, pour ce qui est du parti pris des lieux, hein, puisque vous terminez par toute une série de petits portraits d'œuvres et d'artistes qui ont affaire d'une manière ou d'une autre avec le paysage, que ce soit en peinture, en dessin, environnement ou sculpture. Mais pour l'heure, on commence par presque le commencement.
La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe, en train d'éructer, fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissante elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces, où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pin rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent, elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.
La voix de Francis Ponge disant le pain en 1962, c'est pour France Culture, un poème extrait du Parti pris des choses, paru en 1942, auquel le titre de votre livre fait sans doute, voire nécessairement, écho, Michel Collot, le parti pris des lieux, même si je ne sais pas s'il ne faut pas marquer un temps d'arrêt en le lisant, le parti pris des lieux. Je ne sais pas s'il y a une petite pause à faire entre parti et pris. Ça ne voulait dire, est-ce que ça voulait dire, non j'imagine que non, ça ne voulait pas dire, j'imagine pour vous prendre le parti de Ponge, hein, mais qu'est-ce qui se jouait malgré tout dans cet emprunt pour vous, d'autant plus qu'à l'écoute du pain, évidemment, on ne peut que penser paysage.
Ah mais la dette à l'égard de Ponge est tout à fait là, assumée et déclarée, c'est un de mes poètes préféré auquel j'ai d'ailleurs consacré un livre, mais justement pour essayer de revisiter cette notion de parti pris, et vous avez c'est intéressant cette pause que vous introduisez, parce que en fait parti pris c'est même dans le parti pris des choses à la fois se tourner vers l'objet, voire viser à une poésie entre guillemets objective, mais en même temps c'est un parti pris. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre d'une décision subjective. Et dans un troisième temps encore, c'est, comme vous dites en faisant une pause, c'est le fait d'être pris par. Et d'une certaine façon, le texte déjà du pain le montre. Il y a une sorte de d'irruption de toute une fantasmatique, les sœurs siamoises qui arrivent là. En fait, le parti pris d'objectivité qui est censé être affiché par le titre du recueil de Ponge et, disons, contrecarré par le lien nécessaire entre le sujet lyrique et l'objet. Je parle à propos de Ponge d'un lyrisme objectif, parce que on confond souvent le lyrisme avec l'expression d'un sentiment personnel, de la vie intérieure. Or, il y a une modalité du lyrisme qui est au contraire tournée vers l'extérieur, et c'est celle-là qui m'intéresse, et qui intéresse Ponge aussi, parce que ce que j'ai constaté en travaillant sur Ponge, c'est que à partir du moment où il va choisir une thématique qui se rapprochera justement de celle des lieux ou du paysage, par exemple, il va s'atteler à décrire un petit bois de pin, un pré. Eh bien, dans ces textes-là, on voit émerger de façon beaucoup plus nette cette dimension lyrique. Il dit à propos des paysages qu'il a rencontrés en Algérie après-guerre, qui peut résister aux paysages ? Les paysages m'envahissent, ils me pénètrent. Et donc, il y a ce rapport qui m'intéresse, le paysage étant un lieu d'interaction, finalement, entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est pour moi la définition d'une modalité lyrique qui n'est pas celle de la projection d'un sentiment intérieur sur le monde extérieur, mais tout autant, voire davantage, ce que disait Ponge, c'est-à-dire la variété des choses qui me construit, c'est-à-dire réellement la manière dont l'extérieur vient construire le sujet lui-même.
Alors on en revient justement, Michel Collot, à cette construction que vous donnez à lire dans le parti pris des lieux, qui est fait de sortes de poèmes paysages, de prose courte, de paysages méditerranéens, de paysages d'eau, de montagnes, de rêves de paysages aussi, de ces portraits d'œuvres d'artistes travaillant les lieux, de l'autobiographie dont on parlait, qui vous ramène sur les lieux de votre enfance à la Courneuve, au Comtin vénessin, à la campagne champenoise, tout en écrivant, et je vous cite, « Faute d'avoir un pays, j'aimais créer des paysages hein, » et de citer ce que j'imagine être un poème d'adolescence. Hein. Qu'est lucide cette petite phrase hein, « Faute d'avoir un pays, j'aimais créer des paysages » de ce qui vous fait encore écrire un Michel Collot.
Simplement le fait que le paysage n'est pas réductible au pays. C'est-à-dire qu'on peut ressentir le besoin d'établir un lien avec, finalement, avec toute espèce de lieu. C'est pour ça que j'ai mis un pluriel, par fidélité à Ponge. Hein. C'est les parti pris des lieux. Dans leur diversité, dans le hasard de notre rencontre avec ces lieux, sans qu'on songe à ce qui est souvent reproché à une poétique du paysage, à quelque chose qui serait de l'ordre de l'enracinement. Je dis, j'ai vécu toute partie de ma vie en banlieue, et c'était pas un lieu d'enracinement du tout. Mais à l'occasion de telle ou telle rencontre, de telle ou telle expérience, ce lieu pouvait devenir paysage, ce qu'il voulait pas du tout dire que c'était le lieu où je me sentais at home dans mon pays, mais j'étais capable de ressentir d'une part et éventuellement d'exprimer quelque chose.
Qu'est-ce que ce serait que la condition ou les conditions de l'enracinement ?
Les conditions de l'enracinement, ce serait de s'attacher à un lieu exclusif des autres lieux, en quelque sorte. Le lieu, on a parlé d'une poésie du lieu. À propos d'un certain nombre de poètes de la deuxième moitié du XXe siècle, on l'a dit souvent, mais la poésie du lieu vise d'une certaine manière à tout de même à essentialiser avec quelque chose comme un lieu idéal. Et ça, la poésie l'a beaucoup fait. Hein, le lieu idéal, le topos, le locus amoenus, le topos oikeios que reprenait d'Aristote. Alors que là, il s'agit au fond de faire au fond, paysage de tout lieu.
J'aurais dû ajouter à ce que je citais tout à l'heure pour dire un peu rapidement ce qu'on trouvait dans le parti pris des lieux, Michel Collot, une série de poèmes comme des adresses, et je pense à un de ces poèmes en particulier, et à une voix à laquelle s'adresse ce poème.
J'ai vite enlevé cette espèce de pansement arbitraire. Je me suis retrouvé libre et sans espoir, comme un fagot ou une pierre. Je rayonne avec la chaleur de la pierre qui ressemble à du froid contre le corps du champ. Mais je connais la chaleur et le froid, la membrure du feu, le feu dont je vois la tête, les membres blancs.
La voix d'André Duboucher, bien sûr, un extrait, une lecture même de Moteur blanc au Théâtre du Rond-Point, c'était en octobre 1997. Alors on parlait du parti de Ponge tout à l'heure, alors ça n'est pas tout à fait, même pas du tout, le parti d'André Boucher, d'André Duboucher que vous prenez, Michel Collot. Néanmoins, est-ce que vous voulez bien nous faire lecture du poème qui s'adresse à André Duboucher,
oui,
qui s'appelle Compact.
Il s'appelle Compact en souvenir d'une phrase de Duboucher qui parle à propos de peinture, d'ailleurs, de la relation compacte, appelée monde. J'ai pressé le pas pour pressentir cette limite, tomber en arrêt dans l'ouvert. Aucun obstacle, un pan de sol et de ciel immense, impalpable butoir. Heurté par la lumière, je me suis serré contre l'air comme un poing. De toutes parts afflue la terre qui m'envahit, lointain, soudain, si proche, présence intense de l'absent. Souffle coupé, la poitrine oppressée, le cœur qui cogne dans sa cage d'os résonne contre la paroi concave de la montagne. Crâne, tambour, le monde fait bloc. J'éprouve la densité de sa matière, inentamable comme un roc. Rapt de l'abrupt, pour avoir prise sur ce mur, les mots en foule se bousculent. Dans la cohue, les chocs créent des rencontres imprévues, des courts-circuits.
Merci. Qu'est-ce qui, dans ce poème-là, s'adresse à lui ?
D'une part, le pas. On parlait tout à l'heure de la marche. Et pour André Duboucher, j'avais publié pour la première fois ses carnets. Duboucher a beaucoup pratiqué l'annotation pendant des longues marches qu'il aimait faire dans les lieux où il vivait. Et on peut dire que chez lui, l'écriture est très liée à un parcours de l'espace, et justement liée au lieu. Et c'est évidemment quelque chose qui m'a marqué, au fond quelque chose comme ce que Bernard Noël appelle une expérience extérieure. Une expérience extérieure par rapport à l'expérience intérieure de bataille, on voit bien ce qu'il en est. C'est dans ce contact avec l'extérieur que quelque chose se joue pour la poésie. Et chez Duboucher, parce que quand j'ai écrit ce poème, Duboucher venait de mourir, à quelque chose qui est à la fois intensément physique et en même temps quelque chose qui conduit le corps aux limites. Aux limites où il rencontre le risque de l'abrupt, le risque de la chute, le risque de l'asphyxie, quelque chose qui relève finalement d'un certain sublime moderne.
Michel Collot, vous écrivez dans votre recueil « L'inspiration peut naître d'une longue fréquentation ou se produire après coup sur le mode du souvenir involontaire. Le lieu me revient alors à l'esprit dans une sorte de révélation soudaine grâce à laquelle je retrouve, et en fait découvre, ce que j'avais éprouvé à l'instant de notre première rencontre. C'est alors seulement que je peux tenter d'élucider, grâce au travail de l'écriture, ce qu'il avait à me dire et dont je n'avais qu'une conscience obscure. Cette démarche qui répond à une nécessité personnelle correspond aussi à l'une des orientations possibles de la poésie, liée à ce que Joyce appelait une épiphanie. Elle s'oppose à toute forme de programmation ou de production. Si elle naît d'une contrainte, c'est d'une contrainte toute intérieure qui est la condition de ce qu'on appelle le lyrisme et que j'entends, à la manière de Reverdy, comme un lyrisme de la réalité. C'est au fond une sorte de
Oui, c'est un petit peu un manifeste en quelque sorte d'un lyrisme de la réalité, donc qui est tourné vers l'extérieur et en même temps qui prend en charge ce que j'appellerais le retentissement de cette réalité extérieure. Et c'est vrai que d'une certaine façon, par rapport à Ponge, qui dans son texte sur le bois de pin passe un mois à s'acharner, à décrire le petit bois de pin dans lequel il se promène, etc., me paraît quelque chose, en tout cas, qui ne m'est pas familier, dans la mesure où le lieu n'est jamais si fort présent pour moi à la pensée et dans l'écriture que lorsque je suis ailleurs. Et c'est le lieu revient sur le mode du souvenir involontaire. C'est une expérience assez proustienne, finalement, et qui, du coup, écarte la poésie du lieu ou la poétique du lieu de quelque chose qui serait simplement descriptif, et surtout de tout ce qui serait description de ce qui est connu du lieu. Au fond, ce qui surgit, c'est l'inconnu du lieu, l'inconnu de mon rapport au lieu, et pourquoi il revient là, maintenant. Il y a toute une épaisseur, là, qui est une épaisseur de mémoire, mais en même temps, je crois, une modalité d'épiphanie, c'est-à-dire d'apparition du réel.
Ce qui, en même temps, serait, au fond, pour vous, la seule condition, ou la condition possible, du mode lyrique, en l'occurrence. Ce pauvre lyrisme obstiné, coupable, souvent, enfin, en tout cas, depuis un petit moment, en tout cas, coupable d'intériorité, ça, c'est sûr. Et qui, j'imagine, a été, au moment où vous êtes entré en poésie, Michel Collot n'était pas du tout à l'ordre du jour.
Oui, dans les années 70, je commençais à écrire, c'est évidemment quelque chose qui est plutôt tabou, et puis qui revient dans les années 80, mais selon des modalités assez diverses, dont certaines sont en effet une manière de reconduire un peu trop facilement un lyrisme que je qualifierais pas de romantique, parce qu'il y a erreur sur le lyrisme romantique. Le lyrisme romantique, quand il est en plein dans sa force, c'est pas l'expression du sentiment personnel. Quand vous lisez Shelley, l'ode au vent d'ouest, ça commence par « Be thou me »,« Toi, sois moi ». Je suis pas sûr que le rapport entre le monde extérieur et le sujet soit simplement un rapport de projection de l'intérieur vers l'extérieur. Donc oui, pour moi, c'est, disons, ce que j'ai appelé le sujet lyrique hors de soi.
Alors, c'est sur cette question-là, sur laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord, Gilles Tiberghien et Michel Collot, que je vous laisse, puisque c'est la fin de cette émission, je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci.
Je pensais à la différence qu'il peut y avoir entre les poètes américains, par exemple, et les poètes français, et sur cette question, par exemple, de la marche, ou de, parce que c'est ce que vous disiez autour à propos de Dubuchet. Et là, j'étais aux États-Unis, je suis allé voir les lieux où vivait Wallace Stevens, l'auteur de Blackbird. C'était un assureur, c'était sa condition. Et donc il habitait assez loin de l'endroit où il travaillait, 5 ou 6 kilomètres, et tous les jours il faisait cette route à pied parce qu'il n'avait pas son permis de conduire. Et donc il marchait, et en marchant il composait de la poésie, il écrivait la poésie dans sa tête. Et quand il arrivait, il dictait à sa secrétaire les poèmes qu'il avait dans sa tête composés. Et il y en a un que j'adore qui s'appelle donc Blackbird, et que la société des amis de ce poète a ensuite écrit sur des stèles, il y en a 13 je crois, qui sont posées entre son domicile et cette ancienne compagnie d'assurance. Et il y a quelque chose, alors évidemment c'est un oiseau, hein, c'est un volatile, c'est quelque chose qui n'est pas destiné, bien qu'ils vivent dans quand même des périmètres relativement circonscrits, mais ils ne sont pas attachés au lieu fixe où ils se trouvent à chaque fois qu'ils les voient. Et il y a quelque chose comme là aussi, une forme de corps, si je peux dire, qui s'est traduit dans cette poésie, assez rapide, assez alerte, peut-être parce qu'elle est croquée, qu'elle est saisie au vif sur le moment, mais qui me semble avoir une autre cadence et manifester quelque chose de différent comme espace poétique.
Oui, il y a la tradition du waybook, hein, de anglo-saxonne d'ailleurs,
oui.
Que Kenneth White, par exemple, a pas mal pratiqué, qui est plus du côté de la notation d'un événement fugitif, mais qui est pris sans prendre forcément la peine d'une construction. Il y a une immédiateté. Ce qui m'intéresse aussi dans la poésie américaine, c'est la question de la réception française, de l'objectivisme américain, par exemple. C'est assez intéressant parce que on a beaucoup insisté sur justement l'aspect littéral de la pratique des objectivistes américains, et en définitive elle a été un peu une machine de guerre contre le lyrisme, alors que ce qui m'intéresse dans la catégorie du lyrisme objectif, c'est de comprendre pourquoi, quand Carlos Williams décrit simplement une boîte d'allumettes, il y a quelque chose qui passe, qui est de l'ordre d'une émotion. Et donc, évidemment, en soustrayant l'adjectif lyrique à une certaine traduction, je crois qu'il y a réellement un lyrisme de l'objet, et que l'objectivisme américain donne de beaux exemples, je crois, de ce que Reverdy essayait lui-même de préfigurer dans la poésie française sous le terme de lyrisme de la réalité.
Oui, chez Nidecker aussi, il y a cette dimension beaucoup. En particulier, elle, c'est plutôt une poète de la campagne, si je veux dire. En tout cas, elle écrit dans la nature, à la différence des autres. Et on sent en effet cette dimension, c'est vrai. Ça m'a beaucoup frappé. Et du coup, c'est compliqué de, malgré tout, de les saisir dans une seule, seule définition, quoi.
Voilà, mais ce qui est intéressant dans la poésie, à mon avis, c'est que justement, il ne se laisse jamais circonscrire dans quelque chose qui serait purement objectif ou purement language poète. Il y a forcément quelque chose qui passe. Le recueil qui est paru chez Corti de Nidecker s'appelle Éloge du lieu.
Oui.
Ça m'avait beaucoup beaucoup plu, et Manu Farine la semaine dernière recevait un critique éminent qui a fait pour la première fois un recueil de poèmes, John Freeman, et j'ai noté son recueil s'appelait Maps, qui intéressera, je crois, l'auteur d'un livre sur cette question, et était traduit par Vous êtes ici.
Ah oui, j'ai eu ça, oui.
Et donc, cette inscription dans le lieu, je crois que c'est quand même une tendance forte d'une certaine approche contemporaine de la poésie.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. À la technique aujourd'hui, Marie Le Peintre, à la réalisation François Connac, à la préparation Thierry Beauchamp. Vous trouverez toutes les actualités de Gilles Thiberguien et Michel Collot sur le site de l'émission. À réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Et je précise que l'exposition Récits du Monde se tient encore à l'IMEC jusqu'au 17 février. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.